Le journal Fanny Marceau, bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il débute son discours à l'instant même où je vous parle. Vladimir Poutine a tardé à s'exprimer. On attendait sa prise de parole à la télévision russe hier soir, rien du tout. On l'attendait ce matin à 7h et le voilà maintenant, 8h pile. Le maître du Kremlin vient de prendre la parole après un long suspense. Le monde entier attendait cette prise de parole, notamment à l'ONU. La guerre en Ukraine occupe une grande part des discours de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies. Volodymyr Zelensky doit d'ailleurs s'y exprimer en visioconférence aujourd'hui. Hier, Emmanuel Macron n'a pas mâché ses mots. Le chef de l'État condamne l'invasion russe. Écoutez.
Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. La France le refuse et recherchera obstinément la paix. Notre organisation a bien des valeurs universelles et la division face à la guerre en Ukraine est simple. Êtes-vous pour ou contre la loi du plus fort, le non-respect de l'intégrité territoriale des pays et de la souveraineté nationale? Êtes-vous pour ou contre l'impunité? Je ne conçois aucun ordre international ni paix durable qui ne puisse être fondé sur le respect des peuples et le principe de responsabilité. La France se tiendra aux côtés des peuples libres des Nations Unies pour faire face aux conséquences du conflit comme à toutes les inégalités qu'il accroît, en récusant logique de bloc ou d'alliances exclusives.
Emmanuel Macron aux Nations Unies. Bonjour Nicolas Toneff.
Bonjour Fanny, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes le spécialiste européen de la Russie. Vladimir Poutine vient de prendre la parole. On attend de savoir véritablement ce qu'il va nous dire. Il est très attendu notamment sur les référendums d'annexion annoncés hier dans les régions de l'Est de l'Ukraine qui ont été conquises par Moscou. Des référendums organisés à la hâte hein, dès vendredi et jusqu'à mardi prochain. Il devrait faire basculer ces régions dans le giron russe. Que faut-il comprendre de ces pseudo-consultations populaires? Qu'est-ce que ça signifie, Nicolas?
Alors en fait, le sens en est contenu dans la question qui sera posée, hein, puisque cette question, ce sera « Approuvez-vous l'entrée de votre région, donc celle de Kherson, Zaporizhia, Luhansk ou Donetsk, au sein de la Russie en tant que sujet de la fédération ?» La traduction, c'est que la Russie va s'agrandir. Hein, c'est un peu l'annonce d'une victoire à destination des Russes. Vous voyez, on gagne, on avance. Et puis à l'adresse des Occidentaux, hein, c'est une sévère mise en garde, atteindre dorénavant ces territoires. Bombardement avec les armes que vous livrez en Ukraine reviendra à s'en prendre à l'intégrité territoriale de la fédération et donc non plus seulement de s'en prendre à l'Ukraine mais aussi de s'en prendre à la Russie et cet objectif hein, de mise en pression de l'Occident c'est un petit peu aussi le début de l'intervention de Poutine ce matin hein, quand il dit que l'objectif de l'Occident est de détruire la Russie.
Nicolas, pourquoi Vladimir Poutine est-il déjà si sûr du résultat de ces référendums?
Alors c'est assez simple hein, pour les régions indépendantistes de Donetsk et Luhansk, elles sont sous perfusion financière russe depuis 2014. Hein, les emplois sont en grande majorité des emplois de fonctionnaires. Donc si l'on veut garder son salaire, son appartement, eh bien il faut aller voter. Et en général, dans ce genre de scrutin, le votant signe l'enveloppe hein, mise dans l'urne. Donc la nature du bulletin ne fait plus aucun doute. Et puis pour Kherson et Zaporizhia, le contexte, c'est la guerre dans des territoires conquis. Des listes de votants ou d'inscrits datant d'avant la fuite des populations et donc ils n'ont plus rien à voir avec la réalité et donc cela offre la possibilité de manipuler fréquentation, nombre de votants sans retenue et donc de s'assurer là aussi du résultat.
Merci Nicolas Toneff, spécialiste européen des questions russes. On suivra bien évidemment cette allocution télévisée de Vladimir Poutine après l'annonce de ces référendums.
Ouais, on en reparle dès 8h30 sur Europe 1. Retour en France. Emmanuel Macron, parti à New York, a laissé à Paris une petite bombe à retordement, la réforme des retraites.
Et première question, le gouvernement va-t-il passer en force, comme l'a laissé entendre le chef de l'État, en incluant sa réforme dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Elisabeth Borne n'a pas encore tranché. Le sujet agite la majorité au point même de s'entre-déchirer, Jacques Serret.
Oui, l'exécutif doit faire face aux réticences de certains députés Renaissance. Illustration hier encore, en réunion de groupe à l'Assemblée nationale, la première ministre favorable à une réforme rapide ne parvient pas à convaincre une partie de ses propres troupes, surtout l'allié historique des marcheurs. Le Modem, 49 députés dans l'hémicycle, a affiché la couleur. Après François Bayrou, c'est Jean-Paul Mattei, le président du groupe centriste qui est monté au front. La position des députés Mouvement démocrate serait certainement de voter contre cet amendement, insiste-t-il. Selon lui, son groupe ne pourra pas accepter une réforme, petite ou grande, à travers un amendement. Difficile alors pour Elisabeth Borne d'envisager l'éventualité d'inclure la réforme dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. La première ministre va recevoir aujourd'hui et demain les chefs de groupes parlementaires, députés et sénateurs. Elle devrait annoncer à l'issue ce qu'elle envisage, mais les dés semblent jetés, à moins d'une volonté de l'exécutif d'aller à contre-courant de sa propre majorité.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Il est 8h07, ils ont parfois tout oublié, leur quotidien, leur famille. En France, 1 million de personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer.
Plus de 30 millions dans le monde et toujours aucun traitement efficace. Pour la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer aujourd'hui, Europe 1 vous emmène à la rencontre d'un couple qui doit composer au quotidien avec cette pathologie neurodégénérative. François a la mémoire qui flanche, il est déboussolé. Son épouse Gisèle, 79 ans, l'épaule avec patience et courage. Il se confie à Clotilde Dumay.
Les débuts ont été plus difficiles.
Je suis incapable de vous donner les dates de naissance des enfants, de vous donner l'âge. Quelquefois, je ne me souviens plus de leur prénom. Ce n'est pas facile, puis elle a beaucoup trop de choses à faire. Hein. Reconnais-le.
Oui, oui, je reconnais que je gère absolument tout.
Oui.
Tout ce qui concerne la maison.
Ça ne m'empêche pas d'aller au marché et de faire les courses
non,
et de faire
sûr.
Des choses
oui,
comme ça.
Avec une liste néanmoins. Précise.
Ah oui, oui bien sûr. Oui, oui.
Mais quand même, une fois, j'étais perdue. J'ai pris contact très rapidement avec l'association France Alzheimer. L'association organise des groupes de parole. La psychologue qui est avec nous nous donne aussi des clés pour s'en sortir. Mais c'est vrai que ça fait très mal de voir son mari diminuer.
Complètement dépassé par les événements.
Je ne fais pas trop de projets à long terme. J'essaie de continuer à aller au théâtre, au cinéma. Nous continuons à vivre.
Le témoignage touchant de Gisèle et François au micro Europe 1 de Clotilde Dumay.
Et en football, un nouveau suspect mis en examen, placé en détention provisoire hier dans l'affaire Paul Pogba.
Ils sont 5 au total, un des proches, dont le propre frère du champion du monde, qui lui aurait réclamé 13 millions d'euros pour services rendus. La plainte de Paul Pogba pour extorsion a brisé l'omerta. Cyril de la Morinerie, vous avez enquêté pour Europe 1 et des histoires d'argent, de menaces et d'arnaques dans le monde du football, il y en a bien d'autres.
Oui, l'affaire Paul Pogba a mis en lumière les dangers qui guettent les stars du ballon rond. Avec son salaire XXL, le footballeur devient une proie. Certains, comme le champion du monde, ont le courage de porter plainte. D'autres non, victimes de la pression de leur entourage qui réclament des sommes folles. Or, à en croire Jean-Pierre Bernès, agent historique, ces pratiques sont de plus en plus courantes dans le milieu.
C'est un phénomène qui prend de l'ampleur parce que le football est une économie importante. Et à partir du moment où c'est une économie forte, vous attirez des convoitises, des jalousies.
Fabrice Fiorez a lui été victime d'une tentative d'enlèvement. L'ancien joueur du PSG et de l'OM a été agressé dans sa maison par un commando de 3 malfaiteurs cagoulés. Quant à l'attaquant Emmanuel Adebayor, la star du Togo a subi de telles pressions de la part de sa famille qu'il a failli mettre fin à ses jours, comme il l'a raconté à Canal+.
J'étais dans ma chambre à Metz et mon grand-frère qui était en Allemagne est venu me voir. J'étais obligé de vider mon compte pour lui donner. Et j'appelle ma soeur. Je te promets que mon frère il est venu ici, j'ai vidé mon compte. Ma grande soeur ne me croit pas, ma mère ne me croit pas. Je pense au suicide.
L'autre fléau, ce sont ces footballeurs très mal conseillés. C'est le cas de Cédric Angebar, qui a fait une solide carrière en Ligue 1. L'ancien défenseur d'Auxerre a gagné plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois pendant plusieurs saisons. Il a délégué la gestion de son argent à des amis qui prétendaient être des as de l'immobilier. Aujourd'hui, Cédric Angebar est ruiné.
Il faut se méfier. Moi, j'ai aujourd'hui un dossier de surendettement et pour m'en sortir, sinon j'aurais jamais pu rembourser ce que je pouvais.
Et pour éviter de telles déconvenues, certaines stars se tournent désormais vers des avocats, comme c'est le cas de Kylian Mbappé.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Un mot sur ce discours de Vladimir Poutine avant de refermer cette édition qu'on suit pour vous sur Europe 1. Le président russe qui confirme les référendums d'annexion annoncés hier. Il assure par ailleurs que l'Occident veut, je cite, « détruire la Russie ». C'est l'information de la matinée et on y reviendra à 8h30.
Voilà, Vladimir Poutine qui ajoute lancer une mobilisation des réservistes de l'armée. C'est pas encore la mobilisation générale. Merci Fanny Marceau. On y reviendra évidemment tout au long de la journée sur Europe 1 et notamment dans Europe Midi avec Romain Desarbres. Dans un instant, Laurence Rossignol, vice-présidente du Sénat et l'invité de Sonia Mabrouk.
Dimitri Pavlenko. Votre matinale info sur Europe.